Le magazine Femina de VOA Afrique.
Socialement, je vais envoyer ma fille à l'école. La famille qui est déjà les mariés. Elle sont ça la jeune. Qui va m'aider?
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour une discussion sur la polygamie. La polygamie est un sujet qui fâche, hein, et qui fâche de nombreuses femmes et hommes sur la planète sans pour autant aller jusqu'à 700 épouses comme le roi Salomon. La polygamie reste en effet une pratique très courante au XXIe siècle dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique, hein, où certains présidents perpétuent même la tradition, comme par exemple Jacob Zuma, président sud-africain, le président nigérien Mamadou Issoufou et le nouveau président centrafricain Faustin Archange Touadéra, selon Afrique News Info, qui a épousé donc deux femmes le 25 avant donc son investiture. Alors avec moi à mes côtés deux invités, deux dames, deux Guinéennes, à commencer par le docteur Habibatou Sow, chef de service au ministère guinéen de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, présidente de l'association des épouses de militaires et paramilitaires, membre d'Africa Femmes Performantes. Docteur, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour Nathalie.
Salimatou Bangoura, chef d'entreprise agricole en Guinée aux États-Unis, présidente de Yaye Food International dans le Maryland et directrice de la ferme Sali en Guinée, également membre d'Africa Femmes Performantes. Madame Bangoura, merci beaucoup d'être avec nous également.
Bonjour Madame Nathalie.
Alors voilà, une discussion, n'est-ce pas, sur la polygamie pour avoir un petit peu le sentiment de deux dames guinéennes, hein, sachant que en Guinée, la polygamie est pratiquée. Alors, je voudrais commencer peut-être par le docteur Habibatou Sow. Parce que le docteur va peut-être nous faire part de son témoignage juste maintenant. Docteur, pourriez-vous s'il vous plaît nous faire part de votre témoignage?
Ok, merci Nathalie. Et vous savez, la polygamie c'est une pratique courante en Afrique, chez nous. Mais en Guinée, elle est autorisée par la loi.
Je ne suis pas certaine de ce que vous dites.
Si.
Oui, oui. Alors, on peut peut-être en reparler. Je ne crois pas qu'elle soit en droit coutumier, vous voulez dire peut-être. En droit coutumier.
Si elle est autorisée par la loi.
Ah, ce n'est pas les informations que j'ai, moi, sur la Guinée. Ou alors ils ont changé la loi. Des exceptions.
Non, ça fait longtemps. C'est autorisé par la loi. Ah. Mais les femmes sont protégées. Comment? Mm-hmm. Quand l'homme veut prendre une deuxième femme, la loi autorise à ce que la première donne son avis par rapport au mariage, au deuxième mariage de son époux.
Et ça, c'est en droit islamique, d'ailleurs. On demande toujours l'avis, normalement, en droit islamique, de la première épouse.
Voilà. Ouais. Donc, en réalité, elle doit le faire par écrit, consentement libre. Elle écrit, elle signe. Et si cela n'est pas le cas, même le jour du mariage... Elle a le droit de faire annuler le mariage. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit que c'est autorisé par la loi guinéenne, parce que c'est un pays musulman.
Ouais. Mais moi, quand même, j'ai d'autres informations. Et j'espère que je ne me trompe pas, parce que je les ai quand même potassées. Je suis allée les chercher. C'est une étude de Jury Guinée, une revue de droit privé. Oui. Et j'ai vu ces informations un petit peu partout. Alors, j'espère qu'elles sont bonnes. Hein, qui disent en droit guinéen, hein, le principe monogamique est consacré par l'article 315 du Code civil, selon lequel la pratique de la polygamie est interdite à toute personne de nationalité guinéenne et demeure proscrite sur toute l'étendue du territoire de la République. Mais ce principe connaît quatre exceptions. La première exception concerne les mariages célébrés et consommés sous l'empire de la coutume de la polygamie. Elle s'applique donc à tous les mariages formés avant la réforme de la loi du 31 janvier 1968. La deuxième exception prévoit que le mari peut obtenir l'autorisation d'épouser une seconde femme pour des raisons médicales graves. Selon la troisième exception, exception et après une séparation de plus de 2 années en présence d'enfants communs, les conjoints divorcés peuvent se remarier sans formalité de consentement des autres épouses du mari. Cette dernière exception concerne les femmes âgées de plus de 45 ans. Moi, c'est les informations que j'ai trouvées sur la Guinée. J'espère que je ne me trompe pas. L'article 318 du Code civil guinéen sanctionne la polygamie illicite d'une peine d'emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 500 à 5000 francs guinéens. Encore une fois, et il est dit dans cette étude, malgré l'interdiction légale, la polygamie est une pratique courante en Guinée. Moi, c'est ce que j'ai eu. J'espère que je ne me trompe pas. Quel effet ça vous fait ?
Moi, je ne suis pas d'accord.
Ah bon ?
Oui, je ne suis pas d'accord.
Okay.
Jusqu'aux dernières nouvelles, je sais que la polygamie, elle est autorisée par la loi. Mais ce que je vous ai dit là, il faut ça. La femme, la première a le droit de s'opposer au mariage si elle n'est pas informée. Mais le problème, c'est quoi ? Il y a la loi, mais il n'y a pas les mesures d'accompagnement. Nous sommes un pays musulman. Tu peux t'opposer au mariage, mais les conséquences, le gouvernement n'a pas réfléchi à ça.
Parce que tu peux t'opposer. Parlez-nous justement de votre cas précis, s'il vous plaît, parce que vous êtes aussi là pour en parler. Parlez-nous de votre cas, justement, en toute liberté.
Oui, en toute liberté. Moi, je suis. Mon mari est polygame.
Depuis quand ?
Un an.
Et vous êtes mariée avec lui depuis combien de temps ?
25 ans.
Alors, quel effet cela vous a-t-il fait quand vous avez appris cette nouvelle ?
Bon, ça m'a traumatisée, c'est vrai, parce que je ne m'y attendais pas. Mais comme nous sommes des Africains, nous sommes des musulmans, et on est obligés d'accepter tel.
Mais ça, c'est ce que vous pensez ?
Oui.
Mais comment se fait-il que vous pensez comme ça ? Parce que vous pensez que vous n'avez pas votre libre choix. Et vous l'avez dit vous-même, en fait. Vous êtes la première épouse.
Oui.
Donc, est-ce que vous avez consenti à ce mariage ?
Bon, je l'ai consenti de façon verbale. Je n'ai pas fait d'écrit. Mais je l'ai consenti de façon verbale.
Alors maintenant, vous allez nous dire pourquoi vous avez consenti.
Voilà. C'est parce que mon mari, il tenait. Et j'étais obligée.
C'était
pas obligé de façon officielle, mais
vous êtes senti obligé.
Bon, pas obligé parce que j'étais libre de dire non quand on m'a dit.
Ouais.
Oui, quand on m'a dit, j'étais libre de dire non. Mais j'ai accepté, j'ai dit si c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut.
Donc en fait, c'était pour lui faire plaisir.
Oui.
Et vous avez pensé à votre plaisir à vous ou pas ?
J'ai pensé. Moi, je suis une femme libre et donc, j'ai pensé qu'il était libre de faire aussi de sa vie ce qu'il veut.
Oui. Et ça concerne la vôtre aussi quand même, non ?
Oui.
Ouais. Ouais.
Oui.
Et Salimatou Bangoura, votre sentiment par rapport à cela, je ne sais pas si on peut le dire, c'est votre frère dont on parle, c'est ça ? Je l'ai dit. Non, mais bon. Mais justement, c'est intéressant. Votre témoignage est intéressant parce que c'est une histoire de famille. Ouais. Comment vous, Salimatou, vous l'avez ressenti, ça, aussi ?
Non, ce n'était pas admirable, mais on a demandé l'avis de la première. On a voulu faire des histoires avec mon frère. On a vu qu'elle n'était pas chaude. Elle a accepté. On est obligé d'accepter. Quand elle a donné son aval, et son mari est parti voir ses amis, venir la plaider, qu'elle accepte. Finalement, quand elle a accepté, on a accepté à cause d'elle aussi.
Voilà, c'est-à-dire que, en fait, votre époux a tout fait pour vous convaincre.
Oui.
Et il y est arrivé.
Oui.
Et il y est arrivé. Et votre belle-sœur, Salimatou, elle se met un petit peu à votre place aussi, en fait. C'est ça ?
Oui.
C'est ça. Et vous en parlez souvent, toutes les deux ?
Oui, on en parle souvent.
Ouais. Ouais. C'est un peu triste, non ? C'est pas. Non ?
Trop même. Trop même. Bon, parce que les enfants sont grands. Pour nous, c'était pour l'aider pour l'éducation des enfants. Et puis, la différence d'âge entre lui et cette dernière.
Mais à quel âge cette dame ?
Elle est jeune quand même.
20 ans ? 30 ans ?
26.
26 ans. 26 ans. 26 ans. Ouais. Ouais. Elle a l'âge peut-être de certains de vos enfants, je ne sais pas, non, pas tout à fait.
Ouais. Oh, bon. Moi, ouais. Elle a l'âge de mon deuxième.
Ouais. Et alors, vos enfants, justement, oui. Habibatou, vous avez oui. des enfants, oui.
Oui,
comment ont-ils perçu cela aussi?
Là, eux n'ont pas supporté.
Au c'est fille, garçon.
Fille, garçon, oui. Garçon. La fille okay. a 20 ans.
Oui.
Le garçon a 15 ans.
Oui.
Mm-hmm. Au début, ce n'était pas facile pour eux.
Oui.
Mais j'ai dit que mais vous êtes des mais musulmans avant tout. Et il faut accepter tel et accepter ce que papa veut.
Mais vous êtes résignée. Moi, je le ressens comme ça. Vous êtes une femme résignée. Est-ce que vous parlez vraiment au nom de l'islam ou au nom de votre propre résignation?
Non, l'islam recommande. Hein. Mm-hmm. L'islam recommande.
Mais l'islam vous donne la liberté aussi de choisir. Vous l'avez dit vous-même, je le répète encore une fois.
Oui, oui.
En islam, mm-hmm. la première épouse, effectivement, peut refuser. Oui. Est-ce que vous êtes déjà imaginé le cas de figure si vous aviez refusé? Qu'est-ce qui se serait passé, en fait? Ça aurait créé un conflit avec votre époux, il aurait voulu divorcer, il l'aurait fait quand même. Parce qu'il faut quand même le dire. On est dans un couple éduqué qui connaît mm-hmm. les règles, hein, les lois, mm-hmm. en quelque sorte. Mais dans la plupart des couples...
Peut-être si j'avais refusé, mm-hmm, mm-hmm. il allait prendre du temps pour me convaincre. Mais ça n'allait pas nous conduire au divorce quand même.
Okay.
Je suis sûre de ça. Il allait prendre le temps qu'il faut pour me convaincre. Mais quand on m'a rencontrée, et j'ai dit, si c'est ce qu'il veut, je l'accompagne dans ça.
Mais alors lui, il est conscient du fait que ça vous fait du mal quand même.
Mais il le sait. Oui, il le sait quand même.
Et vous en avez discuté avec lui? Vous en discutez ouvertement?
Tout le temps, parfois.
Mais ça, c'est bien quand même, mm-hmm. de pouvoir en discuter ouvertement.
Oui, on en discute. Quand je discute, il dit non, c'est pas ça. Bon, il a plein de raisons, mais on arrive toujours à se comprendre quand même. On se comprend toujours.
Mais vous êtes une femme formidable, comme beaucoup de femmes, je crois. Mm-hmm. Ouais. Salimatou, si vous étiez dans une telle situation, répondez-moi franchement. Vous avez un époux actuellement, vous êtes mariée.
Tout à fait.
Ok, si votre mari vous dit « je veux une deuxième femme », qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes musulmane aussi.
Tout à fait. Mm-hmm. Bon, moi, une fois, une de mes belles-sœurs m'avait proposé ça. Je dis alors...
Mais c'est votre belle-sœur qui vous l'a proposé?
Oui, il a dit ça à mon mari, qu'il veut l'épouser, une femme pour mon mari. J'ai dit, d'accord, vous l'épousez pour lui. Si je n'arrive pas à supporter, je quitte. Je vais rester avec mes enfants. J'ai des 5, je vais m'en occuper au lieu d'aller faire de n'importe. Mais chacun a sa conviction. Mm-hmm. Quand même, c'est dur de mm-hmm. partager quelqu'un avec qui tu as grandi plus de 15 ans. D'amitié et puis faire 25 ans de ménage et qu'il arrive à dérober, c'est pas facile là, de se
c'est la vie. C'est la vie qui change complètement tout d'un coup.
Tout d'un coup, quand même. Ça change tout d'un coup.
Mais c'est bouleversant ça quand même.
Oui.
On vous comprend très bien, mais moi je vais vous apprendre peut-être autre chose, mais je crois qu'on le sait en Afrique, le cas érythréen. Mm-hmm. Hein, en janvier 2016, le gouvernement, hein, par décret, hein, mm-hmm. demande aux hommes de marier plus d'une femme sous peine d'emprisonnement. Alors là, c'est même pas qu'on donne le choix, c'est qu'on l'impose, hein, dans ce sens-là. Mm-hmm. Le département érythréen des affaires religieuses a pris les décisions suivantes. Tous les hommes devront marier au moins deux femmes. Mm-hmm. Et l'homme s'y opposant pourrait purger une peine d'emprisonnement à vie avec travaux forcés. Mm-hmm. La femme qui essaye de dissuader son mari, c'est là qu'on revient vers la loi islamique, d'épouser une autre femme encourt une peine d'emprisonnement à vie également. D'après le gouvernement, tous les hommes devraient marier le plus de femmes possible et avoir le plus d'enfants possible pour rattraper le déficit causé par la guerre. Voilà. Bon. Alors, votre sentiment par rapport à cela?
Peut-être, je crois qu'ils sont clairs. Je voulais... Je dis certainement, c'est vu les conditions dans lesquelles ils vivent.
Ouais. Ils ont une excuse.
Voilà.
On va le dire comme ça.
Voilà, ils ont une excuse et certainement le nombre de femmes est plus supérieur.
Ça, c'est ce qu'on dit dans le monde entier. C'est pas pour ça que la polygamie est de rigueur dans tous les pays du monde. Enfin, c'est. Oui, je vous laisse continuer, allez-y.
Voilà. Ouais. Certainement, c'est à cause de ça qu'ils ont pris cette décision, et que tous les hommes soient polygames. Mais chez nous, ce n'est pas ça le cas, c'est vrai.
Mm-hmm. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes en Érythrée, beaucoup d'organisations qui se lèvent contre ce type
elles
de mesure.
Hein, ça ne fait pas
l'unanimité. Hein.
Voilà, elles n'ont qu'à continuer à se battre. C'est un décret présidentiel qu'on peut annuler. Si elles continuent à se battre, au bout du fil, elles vont réussir, ça c'est sûr. Mm-hmm. Oui, mais c'est une lutte de longue haleine, je crois.
Salim Atouf, vous avez l'air toute triste.
Oh, non.
c'est dur quand même.
Ouais. Mm-hmm.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Alors, vous êtes deux Africa femmes performantes, et je vous vois toutes complètement, je vous vois abattues, complètement résignées par le sort. Vous avez de l'énergie.
Selon notre religion, notre prophète, paix et salut sur lui, dit qu'on peut épouser deux ou trois femmes à condition que si l'homme peut être sincère,
juste
entre les coépouses.
Oui, mais ça a été écrit il y a très longtemps.
Il y a très longtemps,
mais jusqu'à présent, les religions, comme
en Érythrée.
Oui, oui. Et puis après, il y a les coutumes religieuses, puis après, il y a les lois des pays qui logiquement, sont au-dessus. On parle beaucoup, effectivement, de coutumes, de droits coutumiers, de choses comme ça, et c'est pour ça. Le mariage forcé, le mariage des enfants, c'est un peu la même chose. Oui. L'excision, etc., etc. On se retrouve dans les mêmes problèmes. Un petit rappel, le riche propriétaire kényan Assantou Sagoukou, vous en avez entendu parler, marié 130 fois. Il a eu près de 300 enfants et divorça de 85 de ses épouses. Il n'a pas oublié de divorcer non plus. Il s'est marié, mais il a bien divorcé. Joséphine, sa dernière femme, épousée en 1997 alors qu'il avait 81 ans, elle était âgée de 18 ans. Il est mort en 2010, je crois, à 94 ans. Il a environ 1500 descendants. Il faut savoir que la polygamie est interdite au Kenya. On parle du Kenya. Le premier roi du Swaziland, très connu aussi, 68-82, Chobuza II, d'après la Swaziland National Trust Commission, il se maria 70 fois et eut 210 enfants. Une trentaine sont morts en bas âge, entre 1920 et 1970. Alors son descendant, Mswati III, actuel roi du Swaziland, qui a, je crois, une quinzaine d'épouses également, il perpétue la tradition. Un autre cas, celui du saxophoniste nigérian Fela Ransom Kuti, a épousé 27 femmes de son groupe de musique. Il s'est même remarié avec sa première épouse. Et le béninois Salomon Bioku, il porte bien son nom. Salomon, considéré comme grand sage de la ville de Porto Novo, 13 femmes, 46 enfants, est décédé en 2008. Donc en fait, c'est la tradition, c'est comme ça. Hein.
Tradition, mais comme je vous l'ai dit, la loi est là, mais les femmes ne sont pas protégées par la loi. Je ne parle pas de mon cas, je parle de cas général.
Ouais.
Et la femme, si elle refuse, comme vous l'avez dit, elle risque un divorce après.
Oui, et puis c'est dans des situations où on n'est pas forcément des familles aisées, où en fait, on les tient comme ça, les épouses. C'est-à-dire que s'il y en a plusieurs et que c'est plutôt une famille modeste, voire pauvre, l'épouse n'a pas forcément un travail. Hein. C'est une dame qui reste à la maison avec ses enfants. Oui. Elle se retrouve à la rue et puis comment elle vit.
Voilà.
Et en fait, c'est ça.
Donc
qui...
même si celles qui ne veulent pas consentir, accepter, elles ont l'obligation d'accepter pour conserver leur ménage. C'est ça la réalité. Donc si on dit la polygamie, elle est interdite, en réalité, on doit prendre des mesures d'accompagnement pour sécuriser les femmes. C'est ce qui ne se passe pas chez nous. La loi, elle est là. Quand tu as le courage de t'opposer, tu réussis. Mais les conséquences de ça...
Ouais. Voilà. Pas tout le monde peut se le permettre.
Voilà.
Vous, à la limite, vous auriez pu vous le permettre.
Moi, je travaille, je suis indépendante. Même si mon mari me renvoie, je pouvais m'occuper de mes deux enfants. Mais comme vous l'avez dit, dans plusieurs des cas, les femmes ne travaillent pas. Donc, elles dépendent en partie de leur époux. Donc, si elles sont renvoyées, elles risquent de se retrouver dans la rue avec les enfants. Donc, c'est pourquoi, même si elles ne veulent pas, elles sont obligées d'accepter rester. Voilà.
Salim Atouf.
Oui.
Dans tout ça, justement, tiens, parlons un petit peu de Africa Femmes Performantes. Hein. Vous êtes des femmes battantes.
Oui.
Hein.
Oui.
Et justement, tiens, qu'est-ce que... Bon, vous êtes... Abibatou est venue ici pour un congrès spécial de cette organisation très connue du reste, qui justement a pour la mission d'identifier les femmes de talent qui participent activement à l'émergence d'une nouvelle Afrique.
Oui.
Alors comment construire une véritable communauté de femmes d'affaires africaines dans le monde entier? C'est un petit peu la question d'Africa Femmes Performantes. Alors parlez-nous de vos cas précis. On commence peut-être par Salimatou, votre cas précis en tant que femme africaine performante. Qu'est-ce que vous faites exactement? Du business, c'est ça?
Du business, je suis Madame Si, Salé Bangoura. Je fais mes affaires au pays.
Mm-hmm.
J'ai une ferme à 45 km de la capitale, à Gbiriri,
oui.
dont je peux faire 8000 poules pondeuses pour 18 mois.
Wow.
J'ai une plantation aussi à Koba.
Plantation de quoi?
De palmiers que j'ai commencé l'année dernière. J'ai planté 10 hectares.
Mm-hmm.
Et l'année, là, on a commencé du défrichage. On doit faire pour 30 hectares aussi.
Développement de l'agriculture.
D'agriculture.
Formidable.
Pour l'extraction de l'huile de palme et le lieu de cannelle. Et pour faire le savon, le déchet de l'huile de palme.
Ouais. Et vous travaillez justement avec Abibatou dans le cadre, parce que Abibatou, elle fait un petit peu la même chose. Vous faites, vous m'avez dit le terme, j'ai oublié, pour faire le savon.
La saponification.
La saponification.
Oui, oui.
Et la teinture.
La teinture.
Aussi également au sein de votre association d'épouses de militaires.
Oui.
Parlez-nous de cela.
Donc, comme je vous l'ai dit, nous sommes des épouses des militaires.
Mm-hmm.
Donc, nous avons créé une association qui est ici chapeauté par l'état-major général des armées de chez nous.
Mm-hmm.
Donc, toutes nos activités sont financées, autorisées par l'état-major général des armées.
Mm-hmm.
Donc, c'est eux qui nous ont donné le financement pour faire le savon.
Ouais.
Et ce savon-là est encore vendu à l'armée pour avoir une source de revenus pour nos différentes activités. Donc, comme c'est l'association des épouses, nous sommes représentés dans toutes les préfectures de la Guinée.
Mm-hmm.
Partout où il y a les militaires, nous avons une antenne qui est installée là. Donc c'est pourquoi il y a certaines qui font la teinture. Celles qui sont à 150 km de Kindia, là-bas c'est la teinture qui est beaucoup plus développée. Donc elles font la teinture.
Mm-hmm.
Donc nous voulons nous lancer dans l'agriculture aussi.
Ouais.
On a déjà trouvé des parcelles. Certainement cette année, nous allons commencer à faire l'agriculture aussi.
Formidable, l'agriculture, un beau développement.
Oui, oui.
Ouais. Voilà. Et est-ce que vous êtes toutes les deux de formation scientifique, c'est ça, hein?
Oui.
Ouais,
oui.
Ouais. Oui. Vous aimez l'agriculture?
Oui.
Ouais.
Oui.
Salimatou, vous embauchez combien de personnes là-bas?
Pour le moment, j'ai 20 personnes qui ont commencé le défrichage. Après ça... je ne pourrais engager que 5. C'est après la récolte que je vais commencer maintenant à engager plus de 40.
Mm-hmm.
Parce que ça, on a besoin de l'extraction pour la cueillette, l'extraction et puis la transformation. On aura besoin des hommes et des femmes pour faire l'huile de palme.
Je vous l'avais dit, hein, l'émission elle est très courte. On arrive déjà au terme de cette émission. Eh ben oui, docteur Abibatou Sow, un grand merci. Un grand merci pour votre témoignage, pour avoir été ici. Et Salimatou Bangoura, un grand merci également pour votre participation. Dites-nous un dernier mot. Qu'est-ce que vous espérez pour les femmes africaines, pas seulement les femmes de Guinée. Allez-y, on vous écoute. Un dernier mot.
Nous voulons que les femmes africaines se lèvent, qu'elles se battent, qu'elles soient indépendantes.
Mm-hmm.
C'est ça.
C'est beau l'indépendance, hein?
Oui.
Ouais. Salimatou, ça vous plaît l'indépendance?
Tout à fait. Quand moi, je suis là, ça fait 15 ans. Je paye mon mortgage, tout ce que je fais avec le petit commerce que je fais. J'importe les produits africains ici aux États-Unis. Donc, j'ai ma licence. Je suis distributeur. Et actuellement même, à l'aéroport, j'ai 2 tonnes du poisson.
Merci beaucoup, mesdames. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round 2. You open your eyes.